Comme tous les mois, on vous retrouve pour nous présenter une nouvelle chronique sur un nouveau thème lié à notre consommation. Et aujourd'hui, il s'agit des avis et comparateurs sur Internet.
Alors oui, parce que les achats sur Internet donc prennent une part de plus en plus importante chaque année, hein. Donc pour savoir si un vendeur est sérieux ou encore trouver les prix les plus bas, les consommateurs ont à leur disposition des avis donc sur les sociétés et des comparateurs de prix. Alors si c'est des outils très pratiques pour faire son choix, il faut toutefois quand même en connaître un peu les limites et savoir comment bien les utiliser.
Alors, quelles sont les règles encadrant les avis sur Internet?
Alors depuis 2018, donc c'est assez récent, hein, le Code de la consommation impose aux professionnels d'indiquer plusieurs choses. Donc s'il y a une procédure ou non de contrôle des avis, la date de publication de chaque avis ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis, les critères de classement des avis, s'il existe une contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis, ça existe, hein, le délai maximum de publication ou de conservation d'un avis. Et de plus, lorsque le commerçant exerce un contrôle donc sur les avis qui vont être publiés, il va devoir également informer les internautes donc des caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération et de leur diffusion, de la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis, de la possibilité ou non de modifier l'avis et des modalités de modification de l'avis, et enfin, des motifs justifiant le refus de la publication de l'avis. Et donc par ailleurs, hein, le fait pour un professionnel de se présenter faussement comme un consommateur donc pour publier un avis va constituer une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement.
Et alors comment savoir si les avis concernant un site sont fiables?
Alors en juillet 2013, la FNOR donc, avait pris les devants en mettant en place une norme dont les critères de certification sont très proches des dispositions du Code de la consommation actuel. Depuis, la nouvelle norme NF ISO 20488 peut être appliquée par tous les sites qui souhaitent améliorer la qualité de leurs relations clients. Alors elle définit des principes et des exigences de collecte, de modération et de restitution des avis des consommateurs sur Internet, tels que l'interdiction d'acheter des avis, l'engagement de publier l'ensemble des avis positifs et négatifs, ou la publication des avis les plus récents en premier, etc. Donc si le site affiche cette norme, alors les avis pourront être considérés normalement comme fiables.
Et comment détecter un faux avis ?
Alors la lutte, le meilleur moyen de lutter justement contre les faux avis, c'est d'abord de faire preuve d'esprit critique en vérifiant quelques points. Donc si le nombre d'avis est faible, il est possible que l'entreprise, que l'ensemble enfin, de ceux-ci soit publié par des proches de l'entreprise. Dans ce cas, il faut examiner par exemple le langage employé, les fautes, la reproduction de caractères spéciaux pour savoir si une seule personne peut être à l'origine de tous les avis. Il est aussi possible de regarder le profil de la personne qui a publié l'avis. Si un grand nombre d'avis ont été publiés le même jour, alors là, il est probable qu'il s'agisse de faux avis achetés en ligne. Donc la DGCCRF, donc c'est la répression des fraudes, hein, souligne, suite à ces enquêtes, la qualité de ces faux avis positifs, donc là, aussi bien sur la rédaction que sur les profils qui les publient. Il est donc difficile pour les consommateurs de savoir si l'avis qu'ils lisent est un faux ou un vrai avis. Mais en plus donc de ces avis, de nombreuses personnes vont utiliser aussi des comparateurs en ligne pour choisir une entreprise. L'utilisation de ces plateformes est également encadrée par la loi et leur utilisation doit se faire avec quelques précautions.
Et quelles sont les obligations que doit donner la plateforme de comparaison ?
Donc afin d'informer au mieux les consommateurs, le site doit disposer d'une rubrique qui va détailler justement le fonctionnement du comparateur en ligne, justement pour que la personne sache comment c'est comparé. Alors, il doit notamment indiquer donc, les critères de classement des offres, des biens et des services, évidemment, hein, les éventuelles relations commerciales ou les liens financiers que le comparateur entretient avec les professionnels qui délivrent les biens ou les services disponibles sur le comparateur, l'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et l'impact de celle-ci sur le classement des offres. Par exemple, le caractère publicitaire doit faire apparaître la mention du mot « annonce », le détail des éléments constitutifs du prix aussi et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés. Le comparateur sont également tenus d'afficher le caractère publicitaire d'une offre référencée à titre payant et dont le classement dépend de la rémunération perçue. Donc c'est des informations qui sont particulièrement importantes car les liens commerciaux entre les plateformes et les offres comparées peuvent avoir une incidence donc sur leur classement et l'exhaustivité de la comparaison.
Alors quelles indications doivent apparaître sur chacune des pages de résultats du comparateur ?
Donc les comparateurs, ils ont l'obligation de faire apparaître en haut de chaque page de résultats, avant le classement des offres, un certain nombre d'informations. Comme on l'a déjà vu un petit peu, le critère de classement des offres et sa définition et la définition de ce critère. Si c'est une comparaison exhaustive ou non des offres comparées et le nombre de sites référencés et le caractère payant ou non du référencement. Dans le même souci d'information du consommateur, la comparaison doit faire apparaître un certain nombre d'informations à proximité de chaque offre cette fois-ci. Donc les caractéristiques essentielles du bien comparé, c'est important pour savoir ce qu'on va acheter, le prix total à payer par le consommateur et les éventuelles garanties commerciales comprises dans ce prix. Ces informations doivent être lisibles et compréhensibles.
Alors, que doit comprendre le prix affiché dans un comparateur ?
Alors, le prix d'un bien ou d'un service doit inclure tous les frais. Donc, c'est-à-dire que le prix qui va être affiché va inclure les frais de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, d'intermédiation ou encore les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Le comparateur doit également donc indiquer les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué. Et donc pour conclure, donc pour les achats en ligne ou non, il est important de se renseigner sur le sérieux de la société en consultant notamment les avis figurant sur Internet. Il convient de rester vigilant face aux avis publiés et cette démarche n'exclut pas le fait de vérifier l'identité exacte d'un vendeur et le pays de son siège social. L'utilisation des comparateurs en ligne permet de trouver donc plus facilement l'offre la plus adaptée à ses besoins, mais l'ensemble des comparateurs ne sont pas exhaustifs et il faut être vigilant sur les liens commerciaux existants entre le site et la société qui vend le bien ou le service. Il existe dans certains domaines des comparateurs totalement indépendants, c'est par exemple le cas des comparateurs mis en ligne par l'UFC Que Choisir ou encore par le médiateur de l'énergie.
Donc ça veut dire qu'il faut se méfier. Donc nous, on regarde les avis quand on veut choisir quelque chose, mais il faut en plus maintenant se méfier aussi des avis.
Il faut se méfier des avis, oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'avis, de faux avis. Hein. C'est la pratique, c'était assez répandu. Ça se tasse un petit peu en ce moment, mais il y en a quand même un certain nombre. Donc il faut être vigilant et voilà, ça ne dispense pas de faire d'autres recherches en plus. Voilà, c'est un point d'éléments à prendre en compte parmi d'autres.
Et à UFC Que Choisir, vous avez déjà été confronté justement à des personnes qui ont subi ces faux avis ?
Alors, localement, non, pas tant que ça, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que nous, on aura à traiter. Mais au niveau de notre fédération nationale, lui, il y a déjà eu des choses qui ont été entreprises sur des sites qui publiaient des faux avis, notamment des faux avis positifs, pour faire valoir ça et faire fermer les sites, le cas échéant.
Très bien, merci beaucoup Benjamin Capelli. On le rappelle, vous êtes juriste et membre de l'association UFC Que Choisir. Et on vous retrouvera alors soit à la fin du mois de janvier, soit au mois de février, on va voir ça.
D'accord, pas de souci.
Merci beaucoup en tout cas et puis bonne journée.
Merci.